débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Sylvie Matera, senior advisor du cabinet de conseil et d'audit Mazars. Dany Lang, enseignant, chercheur en économie à Sorbonne Paris Nord, économiste atterré, membre du Manifeste pour l'Industrie. Guillaume Poitrinal, fondateur de WO2, promoteur immobilier bas carbone, qui a publié pour en finir avec l'apocalypse, une écologie de l'action chez Stock. Sylvie, on a parlé de l'écart de taux entre la France et l'Allemagne. Alors, je sais pas si là vous commencez à dire warning, attention, le mur n'est pas loin.
Bien sûr. Bien sûr. Non, parce que dès qu'on
il y a le CAC qui baisse, il y a les opérations de Fusac qui sont en train de se mettre en pause, les valeurs bancaires qui se prennent des moins 8 à moins 7% depuis 10 jours.
Et vous avez parlé d'Engie ?
Non, mais. Non, pas d'Engie, là. Pourquoi Engie, quoi ?
Bah, Engie se casse la figure parce que c'est la fin des éoliennes et du renouvelable où Engie avait investi massivement.
J'ai pas regardé, je vous avouerai le
coup. Non, mais les marchés sont pas en forme, ça c'est clair.
Oui, mais à partir de quel moment ça commence à sentir mauvais ?
En fait, là, ce qu'on voit, c'est une grande incertitude et donc les marchés ont horreur de l'incertitude. Donc effectivement, tous les indicateurs sont au rouge. Le spread avec l'Allemagne, c'est pas bon. On est à 0, presque à 0,8 d'écart.
80 points de base.
Et ça, on l'avait pas vu depuis presque 10 ans. Ouais. Donc depuis le moment de la crise souveraine européenne, je crois. Donc 0,8 c'est beaucoup. Si on va au-dessus, passer plus de 100 points de base, ça devient vraiment vraiment
problématique. On entre dans la zone de turbulence.
On est déjà dans une zone de turbulence.
Bon,
le CAC 40
qui a
perdu en termes de valorisation près de 200 milliards, enfin c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Donc, ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que les investisseurs sont inquiets. Ils ont peur d'un déclassement de la France. Ils sont inquiets. Et donc, ils préfèrent investir sur des économies qui leur paraissent plus stables, type l'Allemagne. Et donc, alors, maintenant, si on veut quand même essayer de voir quelque chose d'assez positif, c'est que de toute façon, ça, c'est un peu curieux parce que j'ai dit qu'on n'était pas dans une île, donc effectivement, il faut absolument faire attention à notre environnement, et on le voit bien avec le décalage des indicateurs économiques et financiers qui réagissent quand un des membres importants, la France, décale trop par rapport à ses partenaires. Mais d'un autre côté, si on a vraiment vraiment trop de problèmes, c'est quand même l'Europe qui nous sauvera, parce que la BCE devra intervenir si ces écarts deviennent trop importants.
Oui, mais elle interviendra sous conditions. On va pas nous laisser abroger la réforme des retraites, faire 150 ou 200 milliards de dépenses nouvelles en disant de toute façon la BCE est là.
Et on a aussi une chance, c'est qu'on a l'euro. Parce que si on n'avait pas eu l'euro, le cours de la monnaie aurait dévissé sérieusement.
Bonjour, il faut demander à la BCE d'intervenir si on donne 2 milliards de moins, comme veut le faire M. Bardella.
Oui, mais il n'y a pas
2 milliards de moins à l'Union européenne. Bonjour.
Dany Lang, il n'y a pas que Bardella. Vous prenez du Front populaire, c'est du délire aussi.
Discuter de certaines mesures.
Vous savez, 1%, une fois encore, si on revient aux chiffres rapidement, 1% de 3 000 milliards, notre spread là, 80 centimes. C'est 30 milliards par an, les amis. C'est-à-dire que notre dette nous coûte 30 milliards par an.
50 cette année.
Non,
cette année, elle coûte 50, elle coûtait 25 milliards.
Non, mais
Seul spread de 1%.
Là, depuis une semaine.
Sur 1% appliqué à 3 000 milliards, ça fait 30 milliards d'euros par an uniquement sur ce spread. Ça, c'est le coût pour l'État de ce spread par rapport à un pays vertueux qu'est l'Allemagne. Deuxième coût pour les entreprises, ça veut dire que les entreprises françaises empruntent 20, 25, 30% plus cher. Leur taux d'intérêt est 30% plus cher que les entreprises allemandes. Donc il y a une
compétitivité. Attention de ne pas confondre les OAT le taux d'intérêt. C'est quand même...
Je vais vous dire,
les deux ne sont pas alignés.
Il se trouve que je suis un tout petit peu sur les marchés financiers.
Faut pas confondre les deux.
Oui, mais l'immobilier étant ce qu'il est, je manœuvre quelques centaines de millions d'euros.
Il y a un terme entre les deux, mais ils sont pas corrélés.
Je peux vous assurer que le benchmark, d'accord, c'est de toute façon le taux sans risque du pays dans lequel vous empruntez. Ouais. Vous pouvez le faire dans tous les sens. Donc, le taux sans risque de la France, c'est mon benchmark quand moi, je vais emprunter à la BNP, à la Société Générale.
Et quand c'est un benchmark, ça veut dire que tout se référence par rapport à ça. C'est-à-dire que tous les taux vont
le banquier prend un spread. Donc, c'est tout.
Par exemple, le crédit immobilier, on espérait qu'il allait aller mieux. Là, ça ne va pas du tout.
Vous m'étonnez.
C'est mécanique, Dany Lang. Il va y avoir une remontée des taux de crédit.
Les
taux étaient en train de baisser, là. Les taux baissaient.
Oui, mais d'accord.
Les taux baissaient, mais ça
on en a déjà parlé, Nicolas, avant ce bazar. il fallait que la BCE baisse les taux.
Oui, oui.
Et elle doit le faire. Maintenant.
Enfin, elle doit le faire. Enfin,
c'est pas la BCE qui a conduit les programmes lunaires d'un côté comme de l'autre auxquels on assiste depuis une semaine. C'est pas la BCE qui a pris cette folle décision de dissoudre la
Société nationale. Oui, ça c'est le gros problème. Oui, non, mais d'accord. Mais maintenant, elle va devoir réagir.
C'est chaud. Ils ont raison d'avoir peur pour leur épargne, les gens, vous croyez ? Parce que je rappelle que dans la loi Sapin 2, il y a la possibilité, sur décision politique, en cas de gros coup dur, de bloquer, de geler tous les retraits d'assurance-vie pendant 3 mois renouvelables.
Mais ça, c'est fait pour protéger l'assureur-vie. Hein. C'est pas fait pour ramener plus d'argent dans les caisses de l'État.
Non, mais c'est fait pour éviter, effectivement...
Pour éviter que les assureurs...
L'assurance fun.
C'est dans le cas où les gens sortent leur argent, mais les gens n'ont pas... L'argent, l'épargne, elle va pas être mieux protégée dans l'assurance vie que sur un livret d'épargne ou sur un bon du trésor. Je veux dire, l'épargne est française, elle est locale, etc. Est-ce qu'elle est menacée? Quand on regarde les programmes avec le retour de l'ISF, un certain nombre de choses, oui, bien sûr que l'épargne des Français, s'il y a des dépenses publiques excessives, elle est bien sûr qu'elle est menacée. Bien sûr.
Oui, parce qu'il faudra les financer. Parce qu'effectivement, tous ces programmes, on a vu l'aspect dépenses de chaque côté. On a moins vu l'aspect recettes. Et quand on dépense, a priori, il faut quand même arriver à les financer. Et donc, tout ce qui est financement, c'est augmentation d'impôts, c'est ISF, donc prélèvement sur l'épargne.
Ça, c'est côté NFP, hein, ça, c'est tout ce qui est la fiscalité. Il n'y a que de la taxation.
De l'autre côté aussi.
Il y en a beaucoup moins côté RN.
Ah oui,
c'est l'idée de la
lutte.
Non, il n'y a pas d'ISF au RN, je crois pas.
Ils ont bougé, je crois.
Je ne sais plus.
Non, l'idée.
Non, ils veulent supprimer l'IFI même.
Non, l'idée du RN, d'abord, ils voulaient plutôt accorder des exonérations d'impôts aux moins de 30 ans. Ils ont renoncé. Accorder des exonérations de cotises aux hausses de salaire de 10%. Ils ont renoncé. Mais il n'y a pas vraiment de hausse d'impôts. Mais il y a effectivement ce rêve dingue qu'on va faire rentrer 30 ou 35 milliards d'euros parce qu'on lutte contre la fraude fiscale et qu'on va tripatrier
la fraude sociale.
Oui, mais enfin, quand même, 30 milliards.
Enfin, 30 milliards de fraude sociale.
Non, mais c'est impossible, impossible.
C'est un milliard, au maximum.
Non, mais de l'autre côté aussi,
c'est pas en tripatouillant l'AME qu'on va récupérer des montants.
Non, mais c'est délirant. Fraude sociale cumulée, c'est un milliard.
Je sais, Dany Lang, je connais les montants de ce qu'on fait rentrer en fraude sociale.
Monsieur Lang, vous connaissez le détail du calcul à 123 milliards d'euros d'impôts supplémentaires de monsieur Mélenchon?
Attendez, Guillaume, c'est
tout de suite. Non, mais juste une chose. Attention, les impôts, je ne dis pas que tout est à prendre, mais le retour de l'ISF, c'est très peu de rendement aussi, il faut bien le dire. Mais j'y suis favorable pour des raisons politiques,
politique,
de signal. Et l'impôt sur le patrimoine, ça, désolé, mais la principale source d'inégalité dans ce pays, c'est pas le revenu, c'est pas l'impôt, c'est le patrimoine.
Oui, mais il y a l'ISF qui est prévu dans le programme NFP. Il y a 14 tranches d'IR avec une progressivité.
Oui, ça, j'ai toujours été pour. La progressivité de l'impôt,
il y a de la progressivité.
Non, mais d'accord, mais l'ISF. Oui, mais
la CSG est rendue progressive aussi.
Non, mais dans les projets ISF, juste une question. On prévoit dans les projets du Front Populaire un ISF qui rapporterait 15 milliards, mais il a jamais rapporté
ça. Non, mais ça, je suis d'accord avec vous, ça.
Non, il a au mieux...
Déjà, à 5 milliards, il provoquait des exils fiscaux considérables, avec beaucoup de gens qui partaient à 5 milliards. Les gens ont jugé que c'était un impôt idiot.
Les exils, les riches qui partent, en France, ça a toujours été pour prendre leur retraite au soleil. Arrêtez avec ça, les chiffres sont là, les études sont là aussi. Comme il faut arrêter avec l'ISF qui rapporterait 15 milliards, je suis d'accord avec vous. L'ISF, le rendement, il a toujours été faible. C'est pas pour des raisons de rentrée fiscale qu'il faut rétablir les
symboles politiques.
C'est pour le symbole politique. Bon,
non, mais là, je comprends, mais quand même, il faudra équilibrer les programmes.
Un symbole politique, c'est un impôt qui existe par ailleurs.
Aurélie Trouvé n'a pas encore détaillé l'architecture de ce nouvel ISF.
Non, mais d'accord, mais on vient de dire.
Non, mais attendez une minute, il faut laisser le temps.
Oui, Sylvie Matera.
On vient de dire, enfin, je pense que dans la première partie de l'émission, on a dit qu'en fait, augmenter davantage le déficit était quand même délicat compte tenu de là où on était. Donc, il faut que les nouveaux programmes prévoient de nouvelles dépenses, trouvent des recettes adaptées. Et pour l'instant, on n'en a pas. Non. Ni d'un côté, ni de l'autre.
Oui, mais juste au demeurant, n'oubliez pas les effets induits. On ne parle pas d'une entreprise, on parle de politiques qui vont avoir des effets induits, positifs ou négatifs, sur l'économie. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup et dont personne ne parle, ça va vous faire plaisir, monsieur, mais c'est la situation de l'immobilier qui est extrêmement préoccupante. Et pour moi, il faudrait, et ça c'est dans aucun programme, mais il faudrait le faire, absolument avoir des taux ciblés baissés sur l'immobilier aujourd'hui pour que l'immobilier reparte. Parce que ça va très mal.
Le problème, c'est alors qu'on n'administre pas les taux d'intérêt.
Écoutez, on l'a fait pendant des années, on n'était pas en URSS dans ce pays.
On peut faire des prêts à taux zéro, ça existe, voilà, ça a existé. On peut faire des tas de choses pour relancer l'immobilier, c'est vrai.
Et dans le cadre du plan, on a toujours fait ça, priorité à l'immobilier.
Mais le sujet, malgré tout, de l'immobilier, et ça je peux vous dire, c'est mon quotidien, c'est qu'en fait, on a une production qui coûte de plus en plus cher. Pourquoi est-ce qu'elle coûte de plus en plus cher? Parce que les fonciers sont vendus assez cher, parce qu'il y a beaucoup de taxes quand vous achetez un appartement. Je rappelle que quand vous achetez un appartement neuf, vous allez payer 20% de TVA, tout à fait logique, sur la construction neuve, mais vous payez 20% aussi sur le foncier. Alors là, donc le promoteur, il achète un foncier, 2000 euros parce que c'est, ou 3000 euros parce qu'on est à Pantin, et puis il va le revendre et il y a 600 euros, 400 euros de TVA sur le foncier, acheté par le promoteur, revendu avec la construction neuve par-dessus. Donc la particularité de l'immobilier, c'est qu'il est surtaxé. Et puis la dernière élément, c'est qu'avec les normes qui sont imposées à la construction aujourd'hui, dont certaines sont parfaitement justifiées et d'autres parfaitement superfétatoires, eh bien, nous avons un coût de construction qui est considérable. Alors, il y a des choses qui concernent l'environnement qui sont probablement très justifiées. Il y a des choses qui sont juste de la complexité administrative, de la surnormalisation et qui sont excessives.
À la fin, on a
un immobilier, on a un prix de revient qui est trop cher. Et donc, les promoteurs, ils n'arrivent plus à vendre.
Je vous fais réagir, c'est vous qui m'avez souligné ce tweet signé Jean-Luc Mélenchon. Dans les années 80, les gens travaillaient 4 jours par an pour les actionnaires. Aujourd'hui, écrit-il, c'est 45 jours par an. Nous allons rééquilibrer la répartition de la contribution entre le capital et le travail. Alors, cela nous rapportera 123 milliards d'euros.
Non, j'aimerais bien
savoir
de bien.
Vous vouliez réagir à ça, Guillaume Poitrin?
Non, parce que ça m'a intrigué. Pour une fois, j'ai fait un petit travail de recherche, ce qui m'arrive jamais pour arriver ici, quand on vient plutôt ici, les mains dans les poches. Et je me suis dit, c'est quand même très très curieux de savoir que, en fait, autrefois, les salariés travaillaient pour eux et que maintenant, ils travaillent pour le grand capital. Alors, d'après ce que j'ai compris, j'ai pas eu accès, en fait, aux détails de cette analyse, qui est très surprenante, mais j'ai compris qu'en fait, Jean-Luc Mélenchon prenait comme base, d'après quelques tweets, prendrait comme base, je suis très prudent, les comptes consolidés des multinationales. Et il les rapporterait, en fait, au salaire des Français. Dans ces groupes. Donc déjà, il y a un problème de base, un problème de cohérence entre le numérateur et le dénominateur. La deuxième chose, c'est que je me suis un peu renseigné, et en fait, la part des salaires et cotisations sociales, donc la part du coût salarial dans la valeur ajoutée, elle est à peu près stable depuis 40 ans, autour de 80%. C'est-à-dire que les salaires prennent 80%. Elle était même plus faible, elle était descendue à 76% il y a 20 ans, et là, elle est remontée à 82% de la valeur ajoutée. Ce sont les comptes Eurostat et ce sont les comptes publics. Les actionnaires, eux, prennent 8% de cette valeur ajoutée. À peu près moitié-moitié entre dividendes et profits qui sont capitalisés. Et puis le solde va aux administrations publiques et à d'autres bénéficiaires. Donc c'est 80% de la valeur ajoutée qui va au coût des salariés et donc qui se transforme en salaire et en revenu ou en bénéfice social pour les salariés. 80%.
Vous allez allumer Danny Lang parce que c'est son sujet favori. Oui. Il conteste le fait que le partage de la valeur n'a pas changé en France.
Oui, je le conteste et je le conteste d'autant plus volontiers qu'il y a des travaux très sérieux du FMI, il y a des travaux très sérieux de la base de données européenne, comment elle s'appelle, que chacun peut...
Vous m'avez déjà parlé.
Ameco.
Voilà, c'est
quand
Eurostat.
On regarde Ameco, quand on regarde les travaux du FMI et quand on regarde le travail très sérieux qu'on a fait avec Thomas Delry, Jean-Marie Haribet et d'autres, la part des salaires en France depuis les années 80 a baissé de 7% dans la valeur ajoutée. Voilà, elle a baissé de 7%. Donc je ne sais pas comment Monsieur Mélenchon fait ses calculs. Franchement, ça m'intéresse.
Les 123
pas.
Milliards d'euros, là, je comprends pas.
Mais les 123 milliards, je ne sais pas
égal aux
où
dépenses.
Il va les chercher. si c'est ce que vous dites, c'est sans doute pas des calculs intelligents. Mais prenez l'étude. On a fait un travail très complet. Alors, la part des salaires.
Je vous donne raison. En 85, elle était à 88%. En 2000, elle est descendue à 76%. Et aujourd'hui, elle se situe à 82%.
Monsieur. Bah, si, elle n'a jamais été à 88%. Le pic, dans la plupart des pays de l'OCDE, c'était 80%. C'était au Japon en 1980. Vous pouvez aller vérifier mes chiffres. Vous allez sur Ameco.
Bah, écoutez, moi, je vous propose d'aller.
C'est la Commission européenne, hein. C'est pas Olivier Besançon qui fait ça.
Non, mais on a eu ce débat plusieurs fois, Daniel.
Écoutez, c'est un économiste qui s'appelle Eric Dor qui a publié ça dans la Tribune. Sur des bases de statistiques Eurostat.
Moi, je vous parle pas de la Tribune ou de la presse. Moi, je vous parle de revues scientifiques et de travaux scientifiques sérieux. Et notamment les travaux d'Ameco. Je ne pense pas qu'on peut soupçonner la Commission européenne d'être une grande fan de Mélenchon.
C'est toujours très efficace ce genre de discours à la attaque. Enfin, 4 jours pour les actionnaires.
C'est pas 8% que dit Mélenchon, hein, dans sa phrase. Hein.
Dans les années 80, les gens travaillaient 4
Écoutez bien, écoutez
4
bien.
4 jours par an pour les actionnaires, aujourd'hui c'est 45 jours par an pour les actionnaires.
Comment voulez-vous qu'on aille vérifier dans un sens ou dans l'autre si on n'a pas la base?
Non, mais d'accord. Après,
c'est pas la peine de parler dans
le vide. Il dit que ça rapporterait 123 milliards d'euros.
Ça aussi, c'est du doigt mouillé.
Ah ben oui,
c'est du doigt mouillé. Vous savez que ce qui m'énerve dans la situation actuelle le plus,
c'est qu'on dit n'importe quoi. On a le droit de dire n'importe quoi, c'est vrai.
C'est qu'une fois de plus, on ne va pas avoir de chiffrage sérieux des programmes. M'en étais déjà plaint à la dernière présidentielle.
Vous préparez des notes, vous m'avez dit.
On prépare des notes, mais comment voulez-vous qu'on fasse un chiffrage? On n'est pas des partis politiques. J'attends de voir si les gens vont faire des chiffrages.
Il y a des choses qui ont. Je sais que l'Institut Montaigne avait essayé de faire un déchiffrage de programme en 2022.
Avec un certain prisme. Oui, moi, j'aimerais bien des chiffrages.
Oui, mais Montaigne, c'est quand même pas des rigolos. Ils avaient chiffré les programmes 2022.
Même si on fait des chiffrages très précis, on est quand même dans la vraie vie. Et la vraie vie, c'est que, on a un spread qui augmente, on a des investisseurs qui
partent.
C'est un
problème.
On a des industriels qui disent, finalement, on voulait aller en France, on va peut-être pas aller en France. Enfin, il faut regarder la vraie vie quand
même. Ça, on est d'accord.
On peut faire tous les calculs.
Et le crédit IMO, c'est l'étape d'après. Le crédit IMO va repartir.
Ça, on est d'accord. Le problème, c'est que moi, j'ai grandi dans un pays où la droite reprochait à la gauche de ne pas faire de chiffrage sérieux. Et très franchement, la dernière fois, les programmes de droite, notamment celui de Mme Pécresse et notamment de Monsieur Macron, je ne parle même pas du programme de Marine Le Pen où il y a des trucs qui n'étaient pas du tout chiffrés. Et c'est normal, ils s'en tapent, c'est pas leur fonds de commerce. J'aimerais bien qu'on ait des chiffrages sérieux et ça ne va pas être possible en 15 jours.
Jordan Bardella s'exprime dans les colonnes du Parisien. Exit l'exonération d'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans. Exit l'exonération de cotisations sociales. Enfin, exit, c'est-à-dire, c'est pas tout de suite, mais c'est plus tard, c'est peut-être jamais.
Oui, voilà. C'est ça, les calendes grecques.
L'exonération de cotisations sociales lors des hausses de salaire de 10% ne verra pas le jour. La TVA à zéro sur 100 produits de première nécessité est écartée.
De toute façon,
la privatisation des autoroutes est écartée. À l'inverse, la baisse de TVA à 5,5% sur les énergies est confirmée dans le Parisien ce matin. L'abrogation de la réforme des retraites. Comment on peut raisonnablement vendre au bon peuple l'idée qu'on peut passer de 64 à 62 ans à l'âge de la retraite?
Dans un environnement où tout le monde est à 67.
Ça me tombe des mains, quoi. J'ai pas envie de bosser comme un malade jusqu'à 4. Enfin, je suis comme tout le monde, mais il y a des évidences. Enfin, vous avez rappelé les déséquilibres démographiques. En 2024, c'est la première année où l'Europe a perdu de la population.
Ça
porte un nom, ça s'appelle de la démagogie. Voilà, ça porte un nom.
Mais à gauche, on promet ça dès mi-juillet, dès l'automne.
Oui, non, ça n'a aucun sens.
Parce que vous ne faites pas machine arrière quand vous l'avez abrogé, la réforme. On ne fait plus machine arrière. Ouais. On a rendu 2 ans. C'est terminé.
Ça me semble complètement irresponsable. C'est vraiment pas raisonnable de dire aux gens vous pourrez partir à 60 ans dans un environnement où on ne peut pas le financer de moins en moins parce qu'on a un système par répartition, c'est-à-dire que les actifs financent la retraite des inactifs et moins on a d'actifs et plus on a d'inactifs, plus on a un déséquilibre qui croît. Donc ça, c'est pas possible. Dans un environnement où tous les pays qui sont confrontés au même problème augmentent l'âge de la retraite, on n'est pas dans une situation où on baisserait en même temps que d'autres pays. Tout le monde augmente l'âge de la retraite. En Allemagne, il est à 67 ans. C'est quand même incroyable. Et aussi, pourquoi on n'envisage pas alors je sais que pour certains, c'est un épouvantail, mais on peut pas garder un système de retraite par répartition. Il faut mettre en place un système de capitalisation. C'est-à-dire, que les gens mettent de côté de l'argent pour financer leur retraite.
J'ai toujours dit que j'étais pas opposé à une petite dose de capitalisation.
Non, mais c'est la seule solution.
C'est pas la seule solution, madame. Il y a des choix politiques. J'ai été pas opposé à une petite dose de capitalisation comme ça se fait déjà dans la fonction publique avec préfonds. Mais il faut être conscient que, à ce moment-là, le montant de la retraite dépendra des caprices des marchés financiers. Les marchés financiers se portent bien, vous avez une bonne retraite. Les marchés financiers se portent mal, vous allez vous faire voir. Et aux États-Unis, ils ont complètement capitalisé leur système de retraite. Vous partez à la retraite une mauvaise année, ben ça veut dire que jusqu'à votre mort, vous travaillerez dans les restaurants. Donc une dose de capitalisation.
C'est quand même très faux. Hein.
C'est faux.
Vous y allez un peu fort.
Vous êtes jamais allé.
Non, mais je vais vous expliquer. Mais on va les laisser. Il se trouve que j'ai travaillé en Hollande. Vous voyez, on n'est pas dans le Far West là, en Hollande. Vous voyez, à 2 heures de TGV d'ici,
en Hollande. Vous voyez,
et il se trouve qu'ayant travaillé en Hollande, j'ai une retraite par capitalisation hollandais comme tous ceux qui ont travaillé en Hollande et comme le peuple hollandais. La retraite du peuple hollandais, mais y compris des ouvriers métallurgistes hollandais, elle est très supérieure à la retraite de nos ouvriers métallurgistes français, très supérieure. Alors qu'ils n'ont pas plus cotisé. Pourquoi ? Bah tout simplement parce que c'est de la retraite par capitalisation et que bon an, mal an, cette petite pelote a fructifié et qu'à la fin, ils ressortent avec, en effet, des rentes qui sont très supérieures à ce qu'ils ont par répartition, très très supérieures. Cette retraite, monsieur, elle est patronnée et dirigée par l'équivalent de la CGT, là-bas. Je les ai reçus parce que je dirigeais une entreprise dans laquelle les fonds de pension hollandais étaient actionnaires. Et donc j'ai reçu ma salle de conseil d'administration d'une entreprise du CAC 40 que je ne citerai pas, j'ai reçu la CGT du fonds de pension des métallurgistes hollandais. J'ai eu des questions qu'aucun analyste financier, honnêtement, n'était capable de me poser. Beaucoup plus simples, beaucoup plus directes, avec des gens qui étaient responsables, qui savaient que, finalement, il faut faire en sorte que les entreprises s'en sortent, qu'il faut des profits et qui souhaitaient les profits des entreprises. Ils ne souhaitaient pas la destruction du système capitaliste dans lequel on habite. Franchement, et ils étaient très à gauche, bon, peut-être plus à gauche que vous.
Maintenant, je suis pour la destruction du système capitaliste, je suis content de l'apprendre.
J'ai pas dit que vous étiez pour la destruction.
Je suis content de l'apprendre après avoir été traité d'extrême gauche.
Et c'est vrai que sur le long terme, les marchés actions ont des rendements
super. Ce que je veux dire, c'est que la retraite par capitalisation, c'est pas un fossé.
Bon, allez-y, Dani,
je vous dis que la retraite par capitalisation n'est pas un marqueur de droite.
Je peux vous répondre. Pour moi, c'est pas le problème. Je m'en tape que ce soit de droite ou de gauche. Le problème, et je connais le système hollandais, il s'avère que je suis en train de faire 2 papiers sur la politique monétaire avec quelqu'un qui est proche de la retraite aux Pays-Bas. Bon, ben, le système hollandais, si demain les bourses européennes se cassent la figure, il n'a qu'une angoisse, mon co-auteur. Ou meilleur, il n'a qu'une angoisse.
J'ai moins de 15%, de mon portefeuille en bourse.
Bon, bah, si ça se casse la figure, c'est 15%, vous les perdez.
Mais non, parce que je ne vais pas prendre ma retraite tout de suite, c'est lissé.
Il y a effectivement.
Il y a du miracle. Il y a un
non,
miracle.
Mais.
Non, non, donc, les vieux aussi... aux États-Unis qui travaillent jusqu'à leur mort, j'y rêvais.
Non, mais Dani Long,
j'y vais jamais aux États-Unis.
Dans les gestions de retraite par capi, vous n'avez pas les mêmes expositions au risque en fonction
de
la
situation. Oui, c'est vrai.
Il y a des professionnels qui savent gérer une exposition au risque de 55 ans.
Attendez, je me permets de vous rappeler que les États-Unis, quand même, les fonds de pension, c'est pas des zinzins en matière de placement. Ils sont ultra prudents. Ils n'achètent que du AA. Et pourtant, malgré cela, régulièrement des gens à qui on dit vous avez économisé toute votre vie, vous allez avoir une retraite minable. Attention, les fonds de pension, ils sont super prudents et ne me remettent pas en cause les capacités des gens qui gèrent les fonds de pension. Ils sont bons, mais quand la bourse se casse la figure, c'est fini.
Ça fait plus d'argent pour les salariés, beaucoup plus.
On entend, Sylvie, effectivement, « Ah oui, mais si la bourse s'écroule, l'ACAPI, trop dangereux. »
Bah oui.
La capitalisation, d'abord, puisque vous êtes fan des études, il y a des études qui montrent, enfin toutes, que sur le long terme, le plus rentable, c'est un investissement en actions.
C'est risqué.
C'est risqué, mais sur le long terme, c'est le plus rentable. Mais les fonds de capitalisation, ils vont pas tout investir sur des actions à haut rendement. Enfin, il y a le principe de base, c'est un principe de diversification. Oui. Donc, ils vont mettre différentes.
Ce que font les fonds de pension américains, on est bien d'accord.
Laissez-la terminer.
Mais c'est juste que je ne vois pas d'autre solution que d'introduire de la capitalisation dans notre système de retraite, parce que autrement, encore une fois, la vraie vie nous dira qu'on ne peut pas fonctionner avec un système tel qu'on a aujourd'hui et garantir aux gens qui part à la retraite, si en plus il part à la retraite plus tôt, une retraite satisfaisante.
Dany Lang, dernier point sur la réforme confirmée du Rassemblement National de l'audiovisuel public, il privatise. Oui, vous êtes contre la privatisation.
Ah oui, oui. Et puis même, on voit, il faut, dans un pays démocratique qui se porte bien, il faut un juste équilibre. Or, on est déjà loin de ce juste équilibre. Regardez,
mais ça, c'est... Mais un équilibre entre quoi et quoi ?
Entre le privé et le public, dans les systèmes d'information. On est très loin du niveau... regardez les travaux d'Acrimed ou les travaux de Reporters sans frontières. On est très loin du niveau qu'on a dans des pays comme la Finlande, la Suède, etc. En matière de liberté de la presse, si on privatise tout. Je suis désolé, une fois de plus, on oppose le public au privé. Vous savez, j'ai toujours détesté cette logique. Faire disparaître ces 3 milliards de recettes, c'est un one shot. Franchement,
que 3 milliards la privatisation de l'audiovisuel public, ça me paraît
3
pas
milliards.
Beaucoup.
Et puis en plus, en même temps, on fait s'effondrer BFM, TF1, M6.
Ah, les chaînes privées,
vous avez vu,
ils vivront mal l'histoire.
C'est un désastre. C'est un désastre. Bon. On est déjà derrière 10 nations africaines dans le classement mondial de la liberté de la presse. On va encore baisser.
On est quoi, ce que...
On est derrière 10 nations africaines dans le classement RSF de la liberté de la presse.
En
vous regarderez.
Oui. J'ai pas le sentiment qu'on soit dans qu'on vive un enfer ici.
Je fais ce métier, j'ai pas le sentiment
d'en
se
Je n'ai pas dit ça. Mais franchement, la liberté de la presse.
La France, ce paradis où tout le monde se croit en enfer, c'est la France.
Oui, c'est exactement ça.
On arrête, on a fini.
Sylvain Tesson, on rend hommage à Sylvain Tesson.
Merci à vous tous d'être venus débattre de ces... C'est un peu stressant quand même en ce moment.
C'est très stressant. L'incertitude, il n'y a rien de pire pour l'économie. L'incertitude, c'est ce qu'il y a de pire.
Oui, pardon. Ce matin, j'écoutais France Inter et il paraît qu'il y a de plus en plus de gens qui se déclarent stressés et que les psychiatres lancent un cri d'appel pour dire mais vraiment les gens ont peur de l'avenir, de l'incertitude. Donc il n'y a pas que les marchés financiers.
Non, la situation politique est inquiétante. Ça fait 10 jours que j'ai du mal à dormir.
Non, c'est vrai que c'est stressant.
Sylvie Matera, merci.
Et encore, je peux partir aux États-Unis, moi, ce que ne peuvent pas
faire. Dany Lang, merci.
Non, retraite, c'est bien.
Guillaume Poitrinal, on se retrouve demain à 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.